Bonjour à tous. Bon vendredi matin, tout le monde. J'espère que ça se passe bien pour vous. On va parler de voitures électriques et de sa popularité. C'est intéressant parce que on apprenait, entre autres... Je pense qu'on le sait, la voiture électrique, il y a de l'engouement. Vous êtes curieux, vous posez des questions. La preuve, c'est que chaque fois que j'en parle, vous êtes très nombreux à vouloir avoir des informations, à discuter. Vous me dites que vous y songez. Puis je vous donne l'occasion encore ce matin de me dire où vous en êtes dans votre réflexion. Il y a beaucoup de Québécois qui vraiment songent à passer à l'électrique, qui n'ont pas encore fait le pas vers l'électrique pour toutes sortes de raisons, toutes valables d'ailleurs. Il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'au Québec, en ce moment, il y a à peu près 35 000 voitures électriques et hybrides rechargeables sur nos routes. C'est un nombre qui est en nette progression et on apprenait justement, pas plus tard qu'hier, que c'est des chiffres de la SAC. On compte 5 000 véhicules de plus électriques et hybrides rechargeables qu'au début de juin. C'est quand même pas mal et deux fois plus qu'à la fin de 2017. Alors, c'est clair que on est des fervents adeptes de l'électrique. Après, bon, avant que tout le monde ait une voiture électrique dans les mains, c'est-à-dire 100% électrique, parce que sincèrement, je vous avoue là, moi, ça fait deux semaines que j'essaye une Nissan Leaf. C'est une révélation. Je vais vous présenter mes invités pour discuter de ça, puis si ça vous tente, je vous dirai un peu ce que j'en pense de la Leaf, entre autres de cette voiture 100% électrique. C'est la deuxième. J'avais déjà essayé une Tesla il y a quelques temps. Le bonheur de ne pas aller à une pompe à essence, ça, écoutez, sincèrement, là, c'est jouissif. Je ne peux pas vous dire ça autrement. C'est une révélation. Tu passes devant les grandes stations d'essence, puis tu fais bye-bye dans ta face. Je viendrai plus jamais te voir. Ça, c'est un grand plaisir.
Ça y est, Isabelle adhère à une secte.
Ah oui, vraiment, je fais partie de la secte des verres sur roues. Antoine Joubert, chroniqueur auto au Guide de l'auto. Merci
Bonjour.
D'être là, Antoine. Germain Goyer est producteur au contenu automobile pour Autonet, le Journal de Montréal et Journal de Québec. Merci d'être là, Germain.
Salut Isabelle, content de te retrouver.
Vous autres, êtes-vous électrique aussi?
Ben c'est drôle parce
Antoine?
Que cette semaine, j'ai conduit plusieurs voitures électriques. J'étais dans un événement où on votait pour le véhicule nord-américain de l'année. Et c'est la première fois qu'il y avait le plus grand nombre de concentrations de véhicules électriques. Mais faut comprendre que cet événement-là se passait au Michigan, à un endroit où les bornes électriques sont extrêmement rares, les bornes de recharge. Les gens n'achètent pas d'électrique là-bas, comme dans bien d'autres endroits aux États-Unis d'ailleurs. J'ai pu mettre à l'essai la Jaguar E-Pace, qui est en fait une voiture de près de 100 000 $ mais qui est quand même technologiquement assez impressionnante, aussi sur le plan technique, aussi sur le plan esthétique. Mais les deux véhicules qui ont attiré l'attention de la plupart des essayeurs, puis je vous dirais là que les essayeurs avec qui j'étais, moyenne d'âge assez élevée, très traditionnelle dans les choix. Il y a beaucoup de gens du Texas, il y a des gens de la Californie, de la Floride, il y a des gens d'un peu partout aux États-Unis qui se sont retrouvés là. Tout le monde avait un coup de cœur, moi compris, pour la Kona électrique.
Ah, Kona.
Vraiment, okay. Si c'est pas le véhicule de l'année cette année, pour moi, je sais pas ce que ça va être.
Est-ce qu'elle est chez nous, la Kona électrique?
Alors, elle arrive en novembre.
Bientôt, ouais.
Elle arrive en novembre. L'autonomie est annoncée à 415 km pour un prix qui devrait... Le prix n'est pas dévoilé officiellement encore, mais on s'attend à autour de 45 000. Avant les rabais.
Canadiens?
45 000 Canadiens, ouais.
Ils vont pas nous faire le coup de la Tesla modèle 3.
Non, mais essentiellement,
on s'attendait à un prix, puis finalement, c'est comme 15 000 de plus, là.
Ah non, la Tesla, c'est une mauvaise blague, le prix. Puis ils en vendent pareil. On savait que ça serait pas 35 000 $ On le savait, là. Une Tesla à traction intégrale, parce que évidemment on peut acheter un modèle à propulsion, mais le modèle à propulsion, qui veut ça au Québec? Là?
Ouais.
Donc, le modèle à traction intégrale, on parle de plus de 60 000 $
Ouais.
Fait que là, le 35 000, on est loin.
Non, c'est ça.
Le 35, c'était en dollars américains, blablabla,
c'est
en
ça.
Plus. Donc,
avec un radio
on était loin d'une auto abordable.
Non, c'est sûr.
T'sais, avec rien dedans, puis disponible en trois couleurs excitantes, soit le gris, le noir, le blanc. Puis c'est bon. Maintenant, on passe à autre chose. Le Hyundai va fracasser des records avec ça. Chaque
avec
véhicule qui va rentrer au Québec, ça va se vendre instantanément. Il y a des listes d'attente actuellement. La seule chose que je déplore de ce véhicule-là, c'est l'inélégance de son museau. Mais ça, c'est purement... C'est de l'esthétisme. Non, c'est une question de goût personnel.
Ça,
on s'habitue,
on
s'habitue tranquillement là aux véhicules qui ont pas de grille en avant. Là. Le problème, c'est que il existe le Kona à essence qu'on a en ce moment, qu'on voit avec une calandre conventionnelle. Et là, d'en voir une version sans museau, si on veut, ça,
c'est, moi, c'est
ça
un
choque
peu,
l'œil un peu.
C'est,
mais...
un, c'est un peu comme si vous regardez une jolie personne, mais qui n'a pas de bouche sur le visage. Ça donne un peu
t'as l'impression qu'il manque
là.
Un morceau, ouais. Mais on finit par...
par s'habituer.
Par s'habituer.
Mais je pense qu'on
Tesla avec la Model S, au ouais. début, il y avait une espèce de il avait dessiné une pseudo-calandre, puis après, ils ont décidé de l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin.
Ouais.
Tout simplement.
Mais
tout
ça, simplement. C'est vrai qu'au niveau de l'esthétique des voitures électriques, on s'en a déjà un peu parlé. Personnellement, puis je pense qu'il y a des auditeurs qui vont être d'accord avec moi parce que souvent, ils me font le commentaire.
Ouais, ouais, le look ésotérique, là, avec
un vaisseau. T'as pas ça, un vaisseau spatial, Isabelle?
Tu dis, non, mais des fois, c'est ouais. juste même pas un vaisseau spatial, c'est juste lit.
Ah, c'est ça,
tu sais. Juste, tu dis, voyons, pourquoi tu pouvais pas te forcer, je sais pas.
Un look un peu ésotérique, une couleur pastel, puis des roues qui ont l'air des 33 tours, là.
Oui, ou vieux modèle de taux de chipette.
Oh, ouais.
Je trouve que, sincèrement, c'est juste ça, je trouvais que s'ils veulent nous vendre ces modèles-là, moi je m'attends justement à un look peut-être plus futuriste, là, je serais plus ouverte à ça, mais des modèles, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de laideur. Dans
mais vraiment, la Kona, là, pour revenir à ça, ouais. une bagnole géniale à conduire, équilibrée, il y a de l'espace, tu perds pas un centimètre cube d'espace à l'intérieur par rapport à une version régulière.
Mais déjà, il y avait pas beaucoup d'espace dans la version régulière. Là.
Non, mais je veux dire, mais... comme véhicule, ouais. comme VUS sous-compact, oui. c'est quand même homogène.
Oui.
Ouais.
Malheureusement, pas de rouage intégral. C'est le seul bobo pour la
ça
province
quoi,
de
ça?
Québec. Pas de traction intégrale. Pas quatre roues motrices.
Ça, c'est pas le fun.
Ben, c'est pas le fun. Je veux dire, par rapport à n'importe quel autre électrique, c'est pas un handicap parce que personne n'en a.
Mais je sais, c'est ce que je disais justement sur la Nissan Leaf. C'est la seule chose que je déplore. C'est que l'hiver, tu y penses à deux fois ici. Veux-tu monter ici juste pour la côte, ici, à côté du bureau? Là. L'hiver, c'est une méchante piste de glace. Là.
Ouais, hein? Mais des bons pneus. Je veux dire, une traction, c'est pas un handicap majeur, là. Combien? Pendant des décennies, les gens ont conduit des véhicules à propulsion sans assistance à la conduite. Aujourd'hui, une traction efficace, ça fait le boulot. C'est parce que les gens se sont habitués à un rouage intégral. Puis quand t'as goûté à ça, de retomber une traction après, c'est autre chose. Mais là, tu fais un virage électrique. Tu sais, en partant, un rouage intégral, ça a un impact sur une consommation énergétique, quel qu'il soit.
C'est sûr.
Que ce soit un véhicule électrique,
beaucoup.
À essence, diesel, de moins en moins parce qu'on réussit à désactiver les rouages intégrales ou dans le cas d'un véhicule électrique, bon, on va mettre deux moteurs, un sur chaque essieu, puis ça va fonctionner, le système va fonctionner de pair. Fait que bon, c'est juste une augmentation de la consommation d'énergie, mais pas par rapport à la puissance qui est offerte. On prend un Tesla traction intégrale, c'est un véhicule qui a beaucoup d'autonomie, etc. Mais le prix est conséquent.
Tu parles du Model S, là, par exemple, ou même
Model
du 3?
S, Model X, Model 3, ils ont tous des rouages intégrales. Mais bon, le Kona, au prix où ça va être vendu, puis il faut comprendre qu'on vise un marché mondial avec ça.
Ouais.
Alors, le Québec, le poids du Québec ou du Canada dans
Vous voulez dire qu'on va être les derniers en avoir, c'est ça?
Non, mais pour les Coréens, le petit marché qu'on est, ils vont pas nous offrir une version
spéciale.
Le Québec, c'est un gros marché. Tu sais, tu disais, tu parlais tantôt
mais
que les ventes sont
beaucoup.
Oui, mais comprends une chose, Isabelle. Depuis qu'on a retiré les subventions en Ontario, il y a des stocks de véhicules électriques qui ne se vendent plus en Ontario, ce qui rend la disponibilité des véhicules électriques plus facile au Québec.
Ça fait à peu près un mois là, que le gouvernement de Doug Ford
a décidé
ça.
Est-ce qu'on a senti l'effet
déjà depuis un mois, mois
c'est
et
clair.
Demi?
Oui.
Parce que nous, c'est 8 000, mais en Ontario, c'était 14 000 la subvention du gouvernement. C'était énorme. Tu sais, si aujourd'hui, on la coupait au Québec,
il y aurait un impact.
Ah,
oui.
C'est assuré. Fait qu'imagine si... la subvention était de 14, comment l'impact
serait grand.
Serait énorme, oui.
Ouais. Vraiment, c'est vraiment. Ford qui a coupé la subvention en Ontario. Je parle de Ford, le premier ministre, pas Ford, l'entreprise.
Non, c'est clair.
Bien sûr, parce que Ford veut liquider les quelques dernières Focus qui restent. Là.
C'est bon, ça.
Bon. Mais c'est ça. Donc, on se retrouve avec un plus grand stock de véhicules. Puis le gros problème, pourquoi les véhicules électriques ne se vendent pas plus que ça actuellement? Il y a une seule raison.
Vas-y
c'est
donc.
La disponibilité. C'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, c'est parce que les concessionnaires en ont pas. Tu veux t'acheter une e-Golf demain matin, tu vas au concessionnaire, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est ça le problème. On ne produit pas de véhicules parce qu'à l'échelle nord-américaine, la demande n'est pas là. Par contre, concentré au Québec, il y a une plus grande demande. Puis c'est dommage qu'on ne soit pas capable de suffire à la demande. Il y a des stocks de Ford Explorer dans des concessionnaires comme ça n'a pas de bon sens. Est-ce mais des véhicules électriques, il y en a.
Tu parlais du look bizarre.
Germain,
ça,
oui.
La e-Golf, là, la Golf 100% électrique,
ouais.
Elle a l'air d'une vraie Golf quand on la regarde.
Ouais.
Fait que ça lui donne quand même un atout intéressant.
C'est ce que les gens veulent.
Elle n'a pas une autonomie.
Combien?
Autour de 200 km. Fait que,
sincèrement,
c'est moins que
la Leaf qui est autour de 260. Puis sincèrement, je vais vous dire.
T'as-tu réussi à atteindre à peu près ça?
Écoute, sincèrement, je te dis, c'est une vraie révélation d'avoir une 100% électrique. c'est un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la station-service, tu vois, par exemple, mon Normandien me disait, j'ai fait faire un tour de voiture, mon recherchiste. Il me disait, ouais, mais tu sais, moi, il n'y a pas de borne autour de chez nous. Au stationnement incitatif, lui, il part de la Rive-Sud. Là, il y a deux bornes, imagine, pour toutes les centaines de voitures qui sont là. Donc, tu dis, clairement, il manque de bornes. Mais sincèrement, depuis deux semaines, j'ai pas cherché une borne.
T'as chargé à la maison pendant la nuit, c'est tout.
C'est ce que les gens font.
Voilà, puis mon garage étant un bordel, j'ai même pas pu rentrer ma voiture dans mon garage. Fait que j'ai tiré une prise dehors.
Les photos du garage d'Isabelle seront sur sa page Facebook dans quelques instants.
Non, mais c'est un projet en devenir. Faut vraiment que je nettoie mon garage avant l'hiver. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que même si t'as pas un garage, même si t'as pas beaucoup d'espace, bon, il y a la question des condos, on en parlait, parce que beaucoup de gens qui vivent en condo,
oui.
Non, mais c'est vrai, des fois, gens vont dire, écoute, moi, je veux pas payer pour l'autre qui charge sa voiture électrique. Même si c'est pas beaucoup, les gens sont assez...
Il y a la problématique des appartements. Si tu restes au troisième étage d'un triplex, comment tu vas faire pour stationner tous les jours ou tous les soirs le véhicule devant ta porte?
Mais il faut que tu aies une prise extérieure, il faut que tu aies un fil. Non, écoute, je dis pas
éventuellement,
que là, il n'y a pas de neige. Là, il n'y a pas de neige.
En plus.
Alors, il y a ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je nettoie mon garage. Mais... Mais n'empêche que j'ai trouvé ça formidable. Et pour répondre à votre question, j'ai jamais été... Tu sais, au début, tu te dis, oh mon Dieu, je suis à 35 % de batterie. Il y a une journée, je ne l'ai pas utilisée. Je me suis dit, un coup, je tombe en panne. Mais il me restait même le tiers de la batterie.
Oui, puis tu as le mode e-pedal qui est le fun, qui régénère l'énergie.
Ah, le e-pedal, j'ai adoré.
Tu conduis juste à une pédale,
première
finalement.
Fois, tu fais comme... La voiture, bon, tu pars, là, soudainement, tu lâches le gaz, ça fait...
Isabelle, tu lâches pas le gaz.
Oui, non, ben non. Hein? C'est vrai, tu lâches l'électrique.
Bon, t'évolues, là. Faut que
oui,
t'évolues.
C'est vrai. Hein?
Tu lâches l'accélérateur.
Tu lâches l'accélérateur, c'est encore mieux parce que c'est plus français. Ouais. J'ai lâché la pédale à l'accélérateur. Là, soudainement, je pensais que la voiture s'arrêtait en plein milieu de la rue. Mais c'est juste une question de mentalité. J'ai vraiment aimé ça. Après, bon.
C'est maniable.
Es-tu plus zen?
Ça, mon cher ami, c'est un travail sur
de longue haleine.
Non, mais c'est parce que le monde sait pas conduire. Okay. Parle-moi pas là-dessus.
Oups.
On va se garder ça pour la semaine prochaine. Pour nos sujets du
On reviendra.
Écoute, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ben, plus zen.
Écoute, le seul
dans
fait
la conduite,
prendre...
t'es obligé un peu de l'être.
Ouais, hein.
Ouais, je comprends.
Des accélérations moins brusques.
Ouais, t'es obligé de l'être un peu. Mais tu regardes ta voiture se conduire, c'est vraiment ça.
Il y a pas de bruit non plus.
J'ai pas essayé l'autopilot.
Ah, OK, ouais.
Pas encore.
Ben, essaye-le.
Oui, mais je suis comme pas là encore.
T'as peur?
Oui, j'ai comme une petite... Je me dis, ben, tu sais, c'est comme moi, là, dans mon auto, c'est pas la voiture qui conduit, c'est moi, là.
Ouais.
Tu sais? Moi, quand les deux... Déjà que si je mets pas mon clignotant, ce que je fais tout le temps quand même, je mets toujours mon clignotant, sauf des fois. Là, la voiture fait...
Je mets toujours mon clignotant, sauf des fois.
Oui, c'est ça. Je suis comme tout le monde, là, je suis humaine.
Sauf une fois au chalet.
C'est ça.
Non, mais c'est pour te dire que... Quand tu traverses une ligne, même une ligne, comment on appelle ça?
Une ligne pleine,
une
ligne pointillée.
Une pointillée, merci. La voiture te dit, hé, t'as pas mis ton clignotant, puis là, tu sens qu'elle est pas contente. Donc, ça te force à mieux conduire.
Si tu mets le clignotant et qu'il y a un véhicule dans ton angle mort, elle va t'avertir aussi.
Ah oui, non, elle fait beaucoup de choses pour nous. C'est formidable, c'est formidable.
Non, la ligne,
c'est une bagnole. Et sincèrement, 260 km d'autonomie pour une deuxième voiture de ville, j'ai trouvé ça parfait.
Disons 180 l'hiver.
Oui, peut-être.
180 l'hiver. Moi, j'ai réussi à faire 272 avec une Leaf.
Ouais.
Mais ça, c'était dans des conditions idéales.
Ouais.
Honnêtement, moi, je dirais plus, on est autour de 240-250 en été, 180 l'hiver. Ça, c'est pour la version actuelle. L'année prochaine, on augmente l'autonomie à un peu plus de 300. On parle de 320 à peu près, parce qu'on va grossir les batteries.
Oui.
Donc,
ça va être encore plus intéressant.
Ouais, ouais.
Mais quand on y pense comme il faut, 90 % des gens n'ont pas besoin...
Fais-tu 200 km par jour? Non,
c'est ça.
C'est ça qu'il faut penser. Combien de kilomètres par jour
faites-vous? Hier, j'ai fait 920. Mais ça, c'est une autre histoire.
Tu es allé à Détroit.
Ça arrive une fois par jour.
Je suis revenu de Détroit.
Ben oui, mais...
C'est ça. Fait que là, ça prenait long de fil.
Ouais. Mais, et t'es allé en voiture tout à essence?
Oui, oui, une Passat. Rien de compliqué.
As-tu payé ta taxe de pollution?
Non. Ben, ma taxe de pollution, ben non, parce que j'ai mis mon essence aux États-Unis. Là, il était à 2,45 le gallon. Alors, c'est moins cher ici.
C'est ça. Mais ça pollue
pas. Puis ce matin, c'est encore pire. Parce que je dois me confesser, mesdames et messieurs, je conduis ce matin un Dodge Challenger L4 White Body de 707 chevaux qui est présentement stationné quelque part sur la rue Vigée. Et si tu penses que de, ça, c'est...
Ça, c'est comme l'opposé, juste le titre.
Tu peux pas être zen avec ça.
Juste le nom de l'auto, faut que tu... OK, comment ça s'appelle?
Dodge Challenger Hellcat White Body.
White Body!
SRT V8, c'est ça.
Je l'ai eu il y a quelques semaines en essai.
Ça te prend la voix de Dan Bigra, là, pour parler de ça.
Le courage, la légende.
Ouais.
C'est ça.
J'ai pas été capable de descendre en bas de 23 litres et demi aux 100 km.
C'est incroyable.
Ben, t'es pas doux. Moi, je suis seulement à 17,8.
Qui a dit que j'étais doux?
Oui, c'est ça.
Hey, mon Dieu. Moi, je serais peut-être entre vous deux.
Quand il a sorti ses griffes.
Moi, je serais entre vous deux, probablement.
Ouais. Mais honnêtement.
Je ne suis pas douce non plus.
Honnêtement, tu ne peux pas être zen au volant d'une voiture comme ça. Ça se peut pas.
Là, c'est tasse-toi mon oncle, par exemple.
Non, ça n'a pas de bon sens.
Ouais, ouais.
Mais ça, c'est.
Moi, j'avoue que j'aime bien ce genre de véhicule.
Ça, c'est ça.
Vraiment, ma conscience écologique me l'interdit.
Ouais, d'accord.
Et il faut qu'on aille à la pause là-dessus, mais on revient avec les commentaires de nos auditeurs, bien sûr, parce que notre question, je ne l'ai pas encore dite, mais on parle de voitures électriques. Et là, on a un nouveau gouvernement et un nouveau ministre, une nouvelle ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, qui est donc à l'Environnement et lutte contre les changements climatiques, la députée de Châteauguay, qui n'a pas forcément une grande expérience en environnement, mais semble-t-il que c'est une bonne gestionnaire. Puis on va voir ce que vont décider les politiques gouvernementales, parce que c'est ça, tout est là. Est-ce que le gouvernement Legault va aider?
Va-t-elle choisir de chasser les véhicules à essence sur le marché? Non, je suis très poétique ce matin.
Marie-Chantal Chassé va-t-elle chasser les politiques à...
Les véhicules à essence de nos routes.
De nos routes. C'est une très bonne question. Hein? Antoine Joubert est en feu. Bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. 514-790-9850. 1-866 pour nous joindre sans frais. 1-866-790-9850. Dites-moi si vous êtes 100% électrique, si vous êtes à moitié. Vous êtes un hybride, un faux hybride, un vrai hybride ou encore... Ram! À tout de suite, tout le monde. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Legault devrait aider encore plus ou freiner la tendance de l'électrique au Québec? Évidemment, freiner cette tendance, ça va être difficile dans la mesure où, on le sait, la voiture électrique va dominer d'ici 2040, nous dit-on ce matin dans les médias. Il se vendra plus de voitures électriques que de véhicules à essence dans 20 ans. Ça, on le sait. Puis les constructeurs vont là. Même si, puis on en parlera avec mes invités, Antoine Joubert, Germain Goyer, même s'il y a quand même encore des constructeurs qui semblent bouder l'électrique, il y a quand même une tendance marquée. Après, c'est, bon, est-ce qu'on peut freiner l'engouement chez nous à terme en baissant les incitatifs? On sait qu'au Québec, entre autres, Germain Goyer, on donne des montants d'argent. Rappelle-nous d'ailleurs ces montants-là.
Au Québec, pour un véhicule électrique, on parle de 8 000 $. Mm-hmm. Ça paraît énorme, mais en Ontario, c'était de 14 juste avant que ce soit coupé.
Ouais.
Puis pour un véhicule qui est hybride rechargeable avec une autonomie raisonnable, on parle de 4 000 $, donc l'équivalent de la moitié en subvention. Ça fait une différence.
Toi, tu les maintiendrais ou tu les augmenterais? Qu'est-ce que tu ferais avec?
Ben, ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut atteindre le 100 000 en 2020?
C'est ça qu'on avait dit. On s'est mis ça comme cible.
Puis là, on est à 35 000.
Ouais. Il va falloir un petit mouvement.
Ben, il faudrait se dépêcher un peu. Fait que si on veut l'atteindre, faut pas les couper, c'est certain.
Toi, Antoine, tu me disais pendant la pause, tu serais d'avis qu'on les réduise de 8 000 à 4 000 et que l'autre 4 000.
J'ai pas le chiffre magique entre les mains.
Ouais.
Mais de réduire un peu. Pour prendre une partie de cette subvention-là puis la mettre dans le réseau de bornes de recharge qui va être insuffisant, c'est évident.
C'est ça.
Je veux dire, si toi, tu t'achètes un véhicule électrique, que tu n'as aucune borne de recharge dans ton voisinage...
Tu n'as pas de prise.
Non, tu peux en avoir une chez toi, ouais. Mais je veux dire, bon, quelqu'un qui aurait une voiture électrique veut te rendre visite, et c'est drôle parce que c'est exactement le cas d'un de mes amis qui s'est acheté une voiture électrique. Lui, il a une Focus électrique, donc pas beaucoup d'autonomie, mais il a 130 km à parcourir pour partir de chez lui puis s'en venir chez moi. Alors, quand il faut qu'il se charge chez moi, j'ai une borne à la maison. Maintenant, ouais. si j'ai une voiture électrique en essai puis je suis chargé, il voudrait avoir une deuxième borne pour x, y raison. Il n'y en a pas. Il y en a une à la Société des alcools, pas loin de chez moi, c'est tout.
Ouais.
Donc, il faut composer avec ça. Fait que d'augmenter de façon significative le nombre de bornes de recharge dans différents voisinages de ceux qui possèdent des voitures électriques. C'est peut-être une solution. Sûr. Alors, je prendrais, moi, personnellement, une partie de cette subvention-là que je mettrais dans le développement du réseau. Mais de couper la subvention complètement, absolument pas. Là, ça va freiner les ventes, voilà. Littéralement, comme ce qui se passe actuellement en Ontario.
On a Rock avec nous. Bonjour.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va très bien. On vous écoute, Rock.
Moi, justement, je suis en train de vérifier pour... j'aimerais faire le changement. Je suis en location présentement, puis il me reste 2 ans à ma location de ma voiture. Mm-hmm. Puis je regarde tranquillement, justement, pour changer, pour virer vers l'électrique. Il y a bien beau les subventions du gouvernement là, avec un rabais de 8 000 $, mais je remarquais cette semaine en regardant ça que c'est les taux d'intérêt sur les prêts automobiles. C'est ridicule. Je pense justement c'est la Nissan Leaf, j'ai vérifié, là, puis c'était du 5,9% d'intérêt.
Ah ouais.
C'est énorme, là. Fait que, tu sais, on veut changer pour peut-être diminuer un peu les coûts, mais comme pour moi, je fais pas nécessairement beaucoup de millage, l'économie d'essence sera pas vraiment là non plus. Là, en moyenne, je fais peut-être, je sais pas moi, je dépense peut-être 40 $ d'essence par semaine. Fait qu'on y voit à 160 $ par mois. Pour avoir un véhicule qui est quand même à 40 000 $, 45 000 $, il n'y a pas vraiment des coûts d'économie là. On le fait nécessairement juste pour l'environnement.
Ouais, si Antoine, vous permettez, il y a 2 effets là-dedans. Évidemment, les constructeurs comme Nissan n'offriront pas un taux d'intérêt agressif du 0% comme sur un Rogue, parce que Nissan veut, avec un Rogue, aller chercher plus de parts de marché, etc., puis vendre ce qu'ils ont en inventaire. La Leaf, c'est déjà tout vendu. Il y a des listes d'attente. Alors, on serait bien niaiseux de mettre ça à 0%. Maintenant, il y a d'autres...
Mais c'est 5, bêtement 6... une question d'offre et de demande.
Mais c'est ça.
Ouais. Mais je pense que Rock a raison. Il va falloir aussi que les constructeurs... Mais bon,
ouais, mais
on
c'est
peut
ça.
Rêver,
mais à l'opposé, moi, je me souviens d'une époque où Ford avait lancé son premier Escape hybride. Mm-hmm. L'Escape à essence était à 0% de taux de financement. L'Escape hybride était à 8,9 de taux de financement. Parce qu'on
ne
voulait pas en vendre.
Ouais. Ouais,
c'était
ça.
Littéralement ça. Puis c'est encore un peu le cas du côté de chez Ford, si vous voulez mon avis. Là, on va arriver avec une nouvelle génération en 2020 de modèles hybrides électriques chez Ford. Je pense qu'on se réveille.
Bon point, je trouve, qu'il y a même. Parce qu'il faut le dire. Puis là, on est là pour ça aussi, pour brasser un peu l'industrie. On l'espère. C'est ce que vous faites tous les jours, vous, dans vos chroniques. Mais il faut que les industriels de la voiture électrique se rendent compte qu'on sait là, que c'est aussi des compagnies de financement, mais il faudrait pas qu'ils nous le montrent trop. Parce qu'on veut. Moi, je veux pas payer des intérêts quand j'achète une voiture. Je suis désolée, non, je veux pas. Je m'achète une auto, je m'achète pas un prêt.
Mais actuellement, tu sais, nous, on a un succès au Québec avec les voitures électriques. Mais dans le reste de l'Amérique du Nord, mis à part la Californie, ça se vend pas.
Ouais.
Fait que c'est sûr qu'un constructeur automobile, c'est
mais
une entreprise.
Mais peut-être pour ces raisons-là, peut-être.
C'est une entreprise, un constructeur automobile. Là, c'est pas une OSBL. Là. Fait que ce qu'on veut, en bout de ligne, c'est de faire de l'argent. Puis c'est bien évident que c'est plus payant de vendre un Nissan Rogue, de vendre un Qashqai, de vendre un Pathfinder, que de vendre une Leaf. Parce que la Leaf, il y a des coûts de développement associés à ça, il y a des coûts de marketing, etc. Puis
ouais,
la quantité de véhicules qu'on vend, on va finir par rentabiliser tout ça. Mais c'est pas avec ça qu'on fait de l'argent, c'est pas vrai. Là.
C'est avec le financement.
GM, là, ils vendent des Bolt au compte-goutte, ils vendent des Volt, ça se vend bien des Volt au Québec, mais à l'échelle nord-américaine.
Mais des Silverado, par exemple, ben, ça, ils en vendent.
Des Silverado. On a Jean-Christophe avec nous. Bonjour, Jean-Christophe.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bien honnêtement, je suis pas un très grand connaisseur du monde automobile, mais présentement, je magasine pour des VUS larges, principalement, pour question de cargo, d'espace et tout ça. Puis, c'est certain que j'aimerais faire le virage électrique éventuellement, parce que mon autre véhicule, c'est un Dodge Ram 1500 pour le travail. Donc, je pourrais compenser un peu ma conscience écologique. Mm-hmm. Mais, d'un, ma question, c'est au niveau du marché, il n'y a pas vraiment de VUS hybride, j'ai l'impression, tu sais, qui sont vraiment compétitifs avec, je regarde des Durango, des Traverse ou Pathfinder. Est-ce qu'éventuellement, ça va être quelque chose? Parce que oui, la question du financement, c'est certain, mais après ça, c'est l'économie qu'il faut calculer, là, comme votre autre invité disait. Là.
Mm-hmm. Ben, pour le moment, c'est effectivement, l'offre est très, très, très restreinte. Il y a le Mitsubishi Outlander qui a une version hybride rechargeable, mais c'est, à mon avis, vraiment pas un véhicule intéressant, mais
non,
pas du tout.
Non, pourquoi vous l'aimez pas?
Ben, parce que la différence de prix par rapport à la version essence, il y a un gros 10 000 de différence, si c'est pas 12. Puis,
donc, c'est trop.
C'est trop peu, trop tard.
Et l'autonomie est de quoi? 40 km en version électrique, ça n'a aucun sens. Chez Toyota, il y a une version hybride du RAV4, mais encore là, elle est beaucoup plus chère que la version essence.
Puis là, donc, monsieur, regarde les véhicules plus gros que ça. Là, oui. Il parle de Durango. Ouais. Bon, il y a déjà eu un Pathfinder hybride ou un Infiniti JX QX.
Ils en ont vendu.
C'est ça.
Non, je dis n'importe quoi, mais ils n'en ont pas vendu du tout.
Il existe
là,
un Highlander hybride, mais je veux dire, on n'a pas encore trouvé la formule pour un VUS polyvalent. En fait, oui.
Ils cherchent?
Il existe. J'ai posé la question aux gens de.
Il y en existe un, puis c'est la Chrysler Pacifica. C'est une fourgonnette. Ça, c'est une vraie hybride enfichable avec 65 km d'autonomie qui est réellement efficace.
Mais personne n'a pas de rouage intégral.
Mais le visage d'Isabelle dit tout lorsqu'on parle de fourgonnette.
Oh, attends, Germain, il vient de dire personne veut un minivan.
Oui, ben c'est à peu près ça.
Ça dépend. Ouais. C'est comme le ministre de la Famille, tu as des enfants. De... Moi, j'en ai eu des voitures où il faut que tu rentres des enfants dedans. Mais c'est idéalement, tu l'aimes un peu cute.
Oui.
Mais un Chrysler Pacifica, honnêtement, ça fait un super bon boulot. Puis actuellement, c'est le véhicule hybride enfichable le plus polyvalent qui existe sur le marché.
Ouais.
Et de loin.
Pas sûr que Jean-Christophe, ça vous tente-tu, Pacifica?
Ben, je suis pas certain. Moi, c'est ma blonde, principalement.
C'est la blonde. Alors, si c'est la blonde qui décède, elle n'en veut pas. Parce qu'il n'y a pas de maman qui veut conduire une fourgonnette.
Non, c'est pas une voiture de fille.
Il y en a, mais c'est rare.
Tu remarqueras, Isabelle, qu'on ne veut jamais conduire la voiture ou le véhicule que nos parents avaient.
Sauf Germain.
Sauf moi. En fait, j'ai acheté exactement la voiture que mon père avait quand j'étais petit, mais ça, c'est une autre histoire.
Tu veux-tu nous en parler?
On peut en parler une seconde. J'ai acheté...
Il y a un psychologue qui vient en deuxième heure d'émission. Germain, tu pourras rester.
Je m'allonger sur la...
Qu'est-ce que votre voiture dit de vous, Germain Goyer?
J'ai acheté une Volkswagen Jetta GLX VR6. Donc, c'était exactement la même version que celle que mon père avait quand j'étais...
Mais c'est pas si mal, finalement. C'est parce qu'il est tout
jeune. S'il y avait eu une grande caravane, j'aurais probablement pas acheté une grande caravane.
On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec vos commentaires, vos questions. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Legault devrait continuer de pousser la tendance vers l'électrique et même, à la rigueur, de l'encourager peut-être en augmentant, justement, les incitatifs financiers? Est-ce que ça vous aiderait à faire le geste? 514-790-9850. À tout de suite. On a Yves avec nous. Bonjour Yves, est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement Legault devrait continuer de pousser les Québécois vers une tendance électrique, 100% électrique, avec de plus grands incitatifs? Là, on parle en fait d'environ 8 000 $, mais bon, Antoine Joubert nous rappelait pendant la pause que c'était plus de 7 000 parce qu'en fait, c'est le prix de la voiture.
En fait, c'est le prix de la voiture plus taxe moins 8 000 et non pas le prix de la voiture moins 8 000 plus taxe. Donc, le vrai montant, c'est 6 958.
Ce qui est quand même pas si mal. Alors, Yves, votre opinion là-dessus?
Oui, je suis bien d'accord avec ça. Je pense que c'est une grande conscience écologique qu'on doit avoir. Mais vous l'avez, un de vos invités en a fait part tantôt. J'ai vécu ça hier sur Saint-Hubert, les 2-3 bornes de recharge, ils étaient tous occupés.
Ah, c'est sûr.
Entre Rachel et Sherbrooke, et il y avait des autos hybrides qui étaient chargées sur la borne. Mais moi, la question que j'ai à vos invités, est-ce qu'il y a plusieurs modèles de Nissan Leaf électriques?
Plusieurs modèles, c'est-à-dire que quand on a lancé la voiture en 2011, elle avait une autonomie d'à peu près 140 km. On a grimpé cette autonomie-là à 175-180
Et là, la prochaine,
au cours de la première génération qu'on a cessé de fabriquer récemment. Là, la nouvelle génération a été lancée cette année, 250 km d'autonomie à peu près. Et on va monter cette autonomie-là à 320 km l'année prochaine. Mais il y a eu que deux générations de la Nissan Leaf là, jusqu'à maintenant.
Parce que moi, je suis conducteur chez Théo Taxi.
Oui.
Et la pire voiture qu'on a, c'est la Nissan Leaf.
Êtes-vous sérieux? Ah
oui? Ben oui. Alors, je comprends pas que les chroniqueurs parlent beaucoup de la Nissan Leaf au détriment de la Kia Soul.
Qu'est-ce que vous aimez pas de la Leaf? Je suis curieux.
Oui.
Ben, c'est parce qu'elle garde pas son autonomie. Et dès que la voiture atteint 90 000 km, la charge se perd dans un temps. On n'est pas capable de rouler plus que 4 heures avec une Nissan Leaf en ce moment.
Parce que vous avez probablement des livres de première génération. Écoutez.
Mais ça, c'est intéressant ce qui amène comme point, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en ce moment qui me disent j'attends encore. Tu sais, des gens qui sont intéressés, ils savent qu'éventuellement, ils vont s'en acheter une 100% électrique. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de monde qui m'écrit ça, puis quand on en parle, toujours ce que les gens disent, ben, je vais attendre un petit peu pour toutes sortes de raisons. L'autonomie, la batterie,
ouais.
et ce que vient de nous dire notre auditeur, c'est ça. C'est-à-dire, les anciens modèles de voitures électriques, finalement, sont plus performants. C'est quand même une inquiétude logique et normale.
Moi, je trouve ça rassurant. Ça veut dire que...
Ben, pas tant, là.
Ben, oui, parce que le milieu évolue
rapidement. Tu veux dire, oui, ça évolue, c'est mais ça. Si toi, t'as acheté ta voiture il y a 5 ans,
oui.
Tu sais, ça veut dire que, mettons,
si,
aujourd'hui,
si t'achètes... Si t'étais le premier à acheter un téléphone cellulaire, puis t'avais une valise qui pesait 3 tonnes, c'est sûr qu'aujourd'hui, à côté...
Oui, mais Germain, c'est pas le même investissement.
Non.
Un char, c'est comme un appart. Tu sais, c'est une grosse dépense, là.
Absolument.
Puis là, maintenant, on nous demande de la traîner sur beaucoup d'années. Puis on vient de le dire, avec des gros taux d'intérêt. Fait,
en plus.
Mais les premières électriques, là, quand c'est arrivé, là, c'est pas compliqué. T'avais la Nissan Leaf, t'avais la Mitsubishi Emiev, t'avais la Ford Focus. Alors, ces trois voitures-là avaient une autonomie ridicule au début. Et effectivement, la durée de vie des batteries la décharge de la batterie s'est faite rapidement. Sur les modèles plus récents, c'est pas le cas. Monsieur parle de la Kia Soul, qui est une voiture qui a un peu plus d'autonomie que la première Leaf, c'est certain. Par contre, moi, j'ai déploré longtemps le fait que Kia ne soit pas intéressé à en vendre de ces voitures-là, et c'est pour ça qu'on n'en a pas vu tant que ça débarquer sur le marché.
Et pourquoi
surtout
tu dis qu'ils sont pas intéressés à en vendre?
Tu te pointais chez le concessionnaire, il n'y en avait pas. Ouais. On voulait pas t'en vendre, puis on voulait t'asseoir dans un Kia Sorento ou dans une Soul à essence à la place. Au début, c'était comme ça. Il a fallu qu'on éduque les concessionnaires.
Éduquer les conseillers en vente aussi.
C'est ça. Pour finalement trouver un certain marché. Et là, faut aussi mentionner que Kia s'en vient avec la Niro 100% électrique, qui va être une espèce de clone technologique de la Hyundai Kona. Donc, à peu près la même autonomie, on assume. Ça aussi, ça va être intéressant.
Mais entre Kia et Hyundai, tu n'as pas une préférence?
C'est le même constructeur.
Ouais. Ah ouais. Tout appartient à Hyundai.
C'est le même constructeur. Alors, technologiquement, ça va se ressembler.
C'est-tu les mêmes batteries? C'est-tu les mêmes...
Ben là, on va attendre de se faire confirmer exactement ce qu'on va retrouver dans la Niro. Mais je peux vous dire, en attendant, que la Kona, ça, c'est très convaincant. Puis, je pense que c'est un véhicule qui va plaire peut-être davantage aux gens par son look, par sa stature, que la Niro qui est plus traditionnelle.
Question intéressante sur mon Facebook, vous pouvez aller voir ça, Isabelle Maréchal officielle. Il y a Nathalie qui dit « Si on vit une nouvelle crise du verglas avec le changement climatique, ça va être de plus en plus probable que ça se produise. Est-ce qu'on va tous être paralysés? » Je pense qu'elle fait référence au système électrique, au réseau électrique. On sait que dès qu'on l'a vu avec les ouragans, les tornades, on peut tous être privés d'électricité éventuellement.
C'est sûr que de recharger un véhicule électrique avec une génératrice au diesel,
c'est ça.
Ça pourrait être la solution temporaire si jamais il y a une crise, mais il ne faut pas oublier que les panneaux solaires s'en viennent aussi comme technologie pour recharger des véhicules, pour recharger n'importe quoi, en fait. Et ça, c'est une technologie qui est à développer.
Des panneaux sur les véhicules pour qu'ils se rechargent eux-mêmes en roulant.
Mais oui.
Tout ça est faisable.
Ouais. Mitsubishi a développé au Japon une maison autonome qui peut aussi recharger la voiture électrique à 100%.
Mais encore là, les panneaux photovoltaïques, là, c'est tellement pas abordable en ce moment.
Non, j'en magasine, là. Mais Isabelle,
Vraiment pas abordable.
La technologie.
On dirait qu'ils veulent pas t'en vendre, sérieux.
C'était le cas de la voiture électrique il y a 7-8 ans. Puis regarde où on est aujourd'hui.
On a Benoît avec nous. Bonjour, Benoît, rapidement.
Oui, bonjour. Moi, je suis un fan de F-150.
Oui.
Est-ce qu'il y a des pick-up électriques qui s'en viennent dans les prochaines années?
F-150 hybride, électrique, il y a des compagnies spécialisées qui en modifient, si on a vu ça.
C'est très marginal.
C'est très marginal, mais Ford arrive avec un F-150 hybride l'année prochaine.
L'année prochaine, 2019.
Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Il y a Tesla qui travaille sur un pick-up. On l'a pas vu.
Ça va être le prix d'une maison à Westmount, on ne sait pas. Mais c'est ça.
Mais on sait qu'ils travaillent là-dessus parce qu'évidemment, il y a un gros marché à aller chercher là. Mais combien il va se vendre? Ça va être quoi l'autonomie, la capacité de remorquage? On sait rien de tout ça, mais.
En fait, on sait pas grand-chose sur Tesla, par
exemple. C'est sur la planche à dessin.
Non, puis si vous voulez mon avis, le Tesla, là, on en parle trop. On en parle beaucoup trop pour ce que ça représente sur le marché. Je
ne
vais pas nommer de médias, là, mais il y a des journaux là, que vous pouvez lire à chaque jour qui vont consacrer 25% de leur contenu automobile à Tesla. Moi, je trouve ça ridicule. Lâchez-les, Tesla. Là. Tesla, c'est marginal dans le marché automobile aujourd'hui. Mm-hmm. Ça a eu un impact, d'accord, sur le marché de la voiture électrique. Mais il y a autre chose. Il y a d'autres marques, il y a d'autres constructeurs qui mettent des efforts.
Il y a BMW. On parle de la BMW 13. Ouais. Là, ce matin, on parle de la version 2019.
I3, ouais.
Ouais. La i3, pardon. Qu'un ami a essayé et il est tellement... vraiment vendu à ça. Mais tu sais, c'est pas... Ça coûte pas 2 piastres.
C'est une petite voiture zen. Ouais. Le défaut de la i3, c'est que c'est une voiture à roue motrice arrière.
Ouais.
Pas particulièrement problématique à conduire en hiver à cause de la largeur des pneus, qui sont pas plus larges que des roues de vélo, là, ou à peu près. Mais c'est une voiture marginale avec pas beaucoup d'autonomie.
Une voiture BMW, urbaine, faut là, vraiment.
Chez BMW, il faut qu'on passe en deuxième vitesse. Là.
Ouais, mais là, il semble que ça soit justement 260 km l'année prochaine d'autonomie.
C'est ça va faire du bien.
On va s'arrêter et on revient tout de suite après. Raymond, ça a l'air qu'il y a un problème avec sa Sonata hybride. Bonjour, Raymond.
Bonjour, Isabelle. Ça va bien?
Ça va bien.
Écoute, moi, je veux juste mentionner une chose. On parle beaucoup de l'économie pour les voitures électriques hybrides.
Ouais.
On parle jamais du coût des réparations.
Ah.
OK? Moi, j'en ai une qui a arrêté carrément sur le boîte à chevaux. Je l'ai envoyé chez mon concessionnaire. Il m'est arrivé avec un devis, là, si on veut, là. Bon, il fallait réparer le système électrique, là, il appelle ça power supply.
Ouais.
Ça m'a coûté 2 279 $. OK?
Ouais.
Les travaux étaient terminés. Il me rappelle, il me dit, il y a un autre morceau qui fait défaut. Je dis, ah oui, c'est quoi? Hybrid power control unit. 4 718 $.
Ouch.
À part la taxe puis la main-d'œuvre.
Êtes-vous sérieux?
Ça fait une facture de 5 800 $ hors garantie, évidemment. Sérieux, très sérieux. Ça va
aller
dans la cause.
Puis ça, c'est une hybride régulière, évidemment. Là, c'est une vieille Sonata. Là.
Oui.
OK.
On parle de quelle année, combien de kilomètres à peu près?
2014, 200 000 kilomètres.
Ben, si ça peut vous rassurer, c'est même pas le prix d'une transmission automatique dans une Golf. Une boîte DSG dans une Golf à 6 rapports que vous avez aussi dans une Audi A3, truc comme ça, vous êtes à 10 000 $.
Voiture usagée.
C'est quoi le rapport?
Ben, le rapport, ce que je vous dis, c'est que le coût des pièces automobiles en général est exponentiel.
Le coût de la main-d'œuvre.
Ce qui vous est arrivé, c'est dommage.
On parle d'une pièce électronique qui est peut-être grande, je sais pas, moi, comme un paquet de cigarettes.
Ouais, mais ce que nos chroniqueurs nous disent ce matin, ce qu'ils disent ce matin, Raymond, c'est que vous ayez une voiture toute à essence ou une hybride ou une électrique, de toute façon, les pièces de voiture coûtent cher.
C'est-à-dire qu'il y a des cas comme monsieur ici où t'as le prix d'une pièce est injustifiable, puis il faut que tu deals avec. Tu sais, je veux dire, moi, là, un moteur de haillon électrique, c'est un camion Mercedes à 4 800 $. Riez pas de moi, là. Ouais. C'est la même chose avec la Sonata.
Les mots de la bouche.
Ouais. C'est le même problème avec la Sonata à monsieur. Ouais. Avec les données transmissions DSG de Volkswagen.
Mais ça,
quand ça brise, le prix de ça, c'est ridicule.
Merci, Raymond, de votre question. En même temps, là, il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est une bonne idée de s'acheter une voiture électrique ou hybride usagée? Parce que c'était une suggestion. J'ai quelqu'un, un jeune, là, qui me dit, moi, jeune finissant l'université, j'aimerais ça m'acheter une voiture électrique, mais j'ai pas 40 000 $ à mettre là-dessus. Est-ce que l'usager peut être une bonne idée? Germain, tu me disais, oui, l'usager, c'est intéressant, mais là, si les pièces...
S'il trouve, disons, une Toyota Prius à vendre par un particulier, c'est sûr que s'il récupère un ancien taxi qui a, je sais pas, 300 000 km, peut-être que l'offre est moins intéressante, mais s'il récupère là, une Toyota Prius qui a fait ses preuves en termes de fiabilité, ça pourrait faire un compromis avant d'acheter dans 2 ans, 3 ans, 4 ans une auto qui serait entièrement électrique.
Antoine, tu es d'accord? Sinon, usager électrique, oui, c'est bon?
Oui, usager récent. Je n'irai pas dans les premières générations.
C'est-à-dire à partir de quelle date? Là,
disons 2014. Là. À partir de 2014, on les a laissé vieillir un peu, les premiers modèles. Mais sinon, une électrique neuve, abordable, mis à part la Smart, qui est une mauvaise blague pour l'instant. Là,
je la trouve drôle quand même.
T'es deux dans ton auto.
Ouais, c'est ça.
Toi puis ton sac.
Hein, ouais. C'est ça. Puis toi puis ta charge.
Ouais.
Puis, mais sinon, une Hyundai Ioniq, la e-Golf ou la Focus, qui est un petit peu plus abordable. Ce sont trois voitures qui, avec les rabais, reviennent à peu près à 30 000 ou même 28 000 dans le cas de la Focus. 27, 28 000, on peut être là actuellement.
Mais dépêchez-vous parce que la Focus,
elle va disparaître, c'est ça. Mais ça a quand même 200 km d'autonomie. Ça fait un job pas mal. Mis à part le fait que la peinture part au vent après 2 ans, c'est une voiture efficace.
T'es-tu sérieux?
Ah non, la corrosion sur ces voitures-là, c'est le gros problème. Fait qu'il faut faire un traitement de sirop et un traitement de peinture pour s'assurer que ça parte pas. C'est vraiment un problème. Ford, en général, dans cette Fiesta, Focus, Escape, La corrosion, c'est un problème épouvantable, puis malheureusement, même aujourd'hui, on est encore prêt avec ça. Alors, faudrait peut-être que Ford pense à se réveiller. La façon qu'ils ont trouvé de se réveiller, c'est d'arrêter la production.
Mmh. Ouais.
Bon, c'est assez radical.
Mais il en demeure pas moins que ce sont des électriques efficaces sur le plan d'autonomie, puis relativement abordable.
Une chose est sûre, j'ai un beau témoignage d'Yvan qui me dit, moi, en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, c'est jouissif quand on passe devant les pétrolières puis qu'on met pas d'essence. Lui, il évalue, là, puis il fait 25 000 km par an. Il dit que ça lui coûte à peu près 1,20 $ par jour.
Ah, c'est
alors,
ça.
C'est le prix d'un café par jour.
Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Moi, je le vois sur ma page Facebook, Antoine Joubert, chroniqueur auto, que j'aime bien brancher. Ici, brancher, jeu de mots, les gens commentent beaucoup sur ce qui est, tout ce qui est électrique.
Merci
ça
à tous les deux, Germain Goyer, Antoine Joubert. Merci.
Merci, Salut. Isabelle.